un schéma de l'histoire de l'Ancien Testament. Le séjour dans le désert, environ 1491-1451 AV, c. Depuis l'Exode jusqu'au passage du Jourdain, Exode 15 à 40, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Par B.S. Dean. I. De la mer Rouge au Sinaï, ex 15 à 18. 1. Le chant de délivrance, ex 15. Il est difficile de décrire ou même de saisir les émotions d'Israël arrivés sur le rivage et de la mer Rouge. L'orgueil n'avait pas de place, on ressentait plutôt une gratitude humble mais triomphante. Le péril avait été si extrême et la délivrance de l'Éternel si complète que l'on n'entend que ses louanges dans le magnifique chant qui nous est parvenu comme un des monuments du salut. 2. La marche vers Rephidim. Mais Israël ne pouvait s'attarder sur la scène de son triomphe. L'organisation de la nation devait se réaliser au Sinaï. La route vers cette en croix longe, sur une bonne distance, le rivage est de la mer, le désert de Chour au nord, et le désert de Sin au sud. L'adoucissement des eaux de Mara et le campement près des 12 sources et les 70 palmiers d'Élim constituent des événements du début de la marche dans le désert. Un mois s'est écoulé depuis l'Exode. Israël entre dans l'horrible désert de Sin. La nourriture apportée depuis l'Égypte se fait rare, et aux craintes de la famine s'ajoutent les premières douleurs de la soif. Oubliant les délivrances du passé et les fidèles promesses de Dieu, le peuple accuse amèrement Moïse, lui reprochant de les avoir conduits dans le désert pour mourir. Commence alors ce miracle de la miséricorde, la manne, qui suivra Israël quotidiennement pendant 40 années dans le désert, ce que Jésus emploiera comme le beau symbole du pain venu du ciel. 3. Le campement à Rephidim. Israël quitte à présent la plaine siliceuse du désert de Sin et vient camper dans la vallée de Rephidim, à l'entrée des cols de la région montagneuse appelée Horeb. Encore une fois, l'eau manque, Moïse frappe le rocher et l'eau coule en abondance. Ici les Amalécites viennent attaquer sans avoir été provoqués. Moïse fait repousser l'attaque par des hommes choisis par Josué, pendant qu'Aaron et Hur soutiennent les mains levées de Moïse. À ce point du récit, la famille de Moïse vient le rejoindre, après être resté avec Jéthro pendant le grand conflit en Égypte et l'Exode. Jéthro aide Moïse en lui prodiguant de précieux conseils sur l'administration de la justice en Israël. 2. L'année au Sinaï. De Rephidim, Moïse conduit Israël au Sinaï. L'approche, entre des défilés profonds, est bien calculée pour les remplir d'émerveillement. Israël établit finalement son campement sur une plaine plate devant laquelle la montagne sainte, comme un vaste autel, s'élève abruptement vers une altitude d'environ 500 mètres. 1. L'Alliance nationale, ex 19 à 20. L'Alliance abrahamique, si souvent renouvelée pendant la période patriarcale, renouvelée si récemment à Moïse devant le buisson ardent, est en ce lieu prorogée et étendue en une alliance nationale. Celui qui avait appelé Abraham et guide les patriarches, qui avait entendu les soupirs de son peuple en Égypte et les avait sauvés de leur esclavage, qui les avait conduits, nourris et défendus pendant leur voyage jusqu'à cet endroit, ce même Dieu leur propose maintenant de les introduire dans une relation particulière, dans une alliance avec lui. Cette alliance, offerte par Dieu par le moyen de Moïse, est acceptée par le peuple, écrite dans un livre, et solennellement ratifiée par des sacrifices et l'aspersion du sang. Elle devient les 10 commandements, parlés à l'origine par Dieu du haut du Sinaï accompagnés de tonnerres, d'éclairs, et d'un tremblement de terre, et ensuite écrites par lui sur des tables de pierre. Les voici. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas dans la terre. 3. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. 4. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne commettras pas de meurtre. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. 8. Tu ne commettras pas de vol. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras pas. Tel était le sublime code délivré au Sinaï 1000 ans avant les 12 tables de Rome, et 5 siècles avant les lois de Lycurgus. Le décalogue fut ensuite développé en un code complet comportant des lois civiles et cérémonielles. 2. Le sacerdoce national. Pendant la période patriarcale, le chef de famille était son prêtre. Après l'Exode, la nation tout entière, et surtout les premiers-nés, furent considérés comme saints, ex 13.2, 11 à 15. Ensuite, la tribu de Lévi fut mise à part, à la place des premiers-nés, NB 3.5 à 13. La famille d'Aaron fut établie comme sacrificateur, et Aaron lui-même, et après lui ses fils aînés en succession perpétuelle, fut établi à la plus haute dignité de la nation juive, celle de souverain sacrificateur. 3. Les fêtes nationales. 3 fêtes nationales furent établies, Tout des mémorials d'événements importants dans l'histoire de la nation, est planifié pour célébrer des phases successives de la saison des moissons. A. La Pâque, ou la fête des pains sans levain, cette fête, instituée dans la nuit de l'Exode, commémorait la délivrance de l'esclavage. En même temps, puisqu'elle tombait les 11 à 21 nisans, début avril, elle célébrait également le début de la moisson. Les principales caractéristiques de cette fête étaient l'agneau pascal, mangé avec du pain sans levain et des herbes amères, et le geste d'offrir à Dieu une gerbe d'orge, en reconnaissance pour la récolte. B. La fête des semaines, ou la Pentecôte, cette fête, qui se célébrait le cinquième jour après la Pâque, signalait la fin de la moisson. Par la suite, les Juifs la considéraient comme un mémorial de la promulgation de la loi, qui avait eu lieu environ 50 jours après la première Pâque. La principale cérémonie de cette fête était l'offrande des prémices de la récolte, en forme d'un pain cuit. C'est la fête des tabernacles, ou des tentes. Cette fête, se déroulant du 15 au 22 du 7e mois, Tishri, était une sorte d'assemblée de la moisson, célébration de la fin de la récolte, une action de grâce juive. Pour se souvenir de ses 40 années de vie sous des tentes au désert, Israël vivait pendant une semaine sous des cabanes de feuillage. 4. Le sanctuaire national. Pendant l'année passée au Sinaï, le tabernacle avait été construit. C'était un petit temple portable mesurant 5 mètres par 15 mètres. Le lieu saint formait un cube de 5 mètres et ne contenait aucun meuble, sinon l'arche sacrée dans laquelle furent placées les tables de la loi, l'urne avec la manne, et le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné. Personne n'entrait dans le Saint des Saints à part le souverain sacrificateur, et lui-même seulement au grand jour des expiations, lorsqu'il faisait le sacrifice annuel pour les péchés du peuple. Dans le parvis autour du temple se trouvait l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Le tabernacle démonté fut porté par Israël pendant son séjour au désert puis, après, établi à Silo, qui devint le siège du culte national pendant 4 siècles, jusqu'à la construction du temple de Salomon. 5. Les sacrifices nationaux. Les sacrifices, d'animaux ou de fruits de la terre, constituaient l'élément central du culte hébraïque. Il y avait 3 sortes de sacrifices d'animaux. A. Holocauste. Ces sacrifices furent offerts matin, midi et soir. Elles furent entièrement immolées et symbolisaient la consécration d'Israël à Dieu. B. Sacrifice de communion, on réservait une portion de la viande de ce sacrifice pour une fête à laquelle l'offrant pouvait inviter ses amis. Il représentait communion et intimité avec Dieu, et pouvait être offert en grand nombre. Ces sacrifices pour le péché au niveau national ou individuel, on offrait une seule victime. Une partie de l'offrande restait sur l'autel, une autre partie était mangée par le sacrificateur, mais le récipient de bronze dans lequel on le préparait devait être frotté et rincé, et le récipient de terre devait être brisé. Les entrailles, etc., de la bête devaient être brûlées hors du camp. Le sacrifice pour le péché devait faire comprendre à Israël la leçon de la souillure du péché. 6. L'apostasie nationale. La première entorse à l'Alliance nationale eut lieu au pied du Sinaï. Moïse étant absent, il était alors sur la montagne, le peuple réclama des dieux pour aller devant eux. Aaron, cédant à cette pression, fabriqua un veau d'or, en imitation des veaux adorés en Égypte. Israël se livra alors à une fête idolâtre, en violation directe du 2e commandement. Moïse descendit de la montagne avec les tables de la loi à la main. Comme le peuple avait violé l'alliance, Moïse brisa les tables sur lesquelles fut écrite la loi. Par son intercession, le peuple fut restauré, mais non avant que 3000 d'entre eux aient payé leur crime de leur vie. L'alliance fut renouvelée et de nouvelles tables de la loi préparées. Du Sinaï à Kadesh. 1. Le dénombrement. Avant de lever le camp au Sinaï, Dieu fit faire un dénombrement du peuple. 38 années plus tard, à la fin du séjour dans le désert, il en fit faire un deuxième. C'est ce double dénombrement qui donne son nom au livre de Nombres. 2. La marche vers Kadesh. 1 an après l'Exode, Israël quitte le Sinaï, pour marcher à Kadesh, situé sur le bord sud de Canaan. La route passe à travers un désert lassant. À Tabera, le peuple murmure amèrement, et certains sont consumés par le feu de l'Éternel. Avant de reprendre la marche, Israël et le ramassis de gens qui se trouvent au milieu de lui se plaignent de la manne, réclamant la nourriture de l'Éternel. Dieu fait envoyer des cailles en grand nombre, mais avec elles une plaie par laquelle des multitudes périssent. On donne alors au camp de Tabera, embrasement, le nom de Kibrot Hatava, sépulcre du désert. Un autre incident pénible est celui de la sédition de Myriam et d'Aaron. Dieu frappe Myriam de lèpre, mais il la restaure sur l'intervention de Moïse. 3. La détérioration de la foi. De Kadesh, 12 espions sont envoyés pour explorer le pays de Canaan. À leur retour, ils sont unanimes pour louer le pays, et ils en rapportent des fruits succulents pour en démontrer la fertilité. Mais, tout sauf Josué et Caleb, considèrent impossible la conquête militaire du pays. Alors la foi de la nation s'effondre complètement. On propose d'élire un nouveau chef qui les fera rentrer en Égypte. Caleb et Josué, qui essaient d'encourager le peuple, se font presque lapider. Le peuple a souvent hésité, sa foi a maintes fois faibli et vacillé, mais il ne s'est jamais détourné carrément du pays promis en faveur d'un retour au pays de l'esclavage. C'est le comble de l'incrédulité, et 3.19. Cette génération sceptique est condamnée à errer encore 38 années dans le désert, jusqu'à ce que leurs ossements soient blanchis sur le sable. De cette génération, seuls Caleb et Josué survivront pour entrer dans Canaan. Le récit de ces 38 années est pratiquement nul. Trois incidents de cette période sont, le châtiment d'un homme violant le sabbat, la révolte de Corée, Dathan, et Abiram, et la confirmation de l'autorité d'Aaron tant que souverain sacrificateur. À la fin de cette période, Israël se rassemble encore une fois à Kadesh pour sa dernière avancée vers Canaan. IV. De Kadesh au Jourdain. Lors de ce second séjour à Kadesh, Moïse et Aaron pêchent en frappant le rocher pour faire sortir de l'eau, sans en donner la gloire à Dieu, et il ne leur est pas permis d'entrer dans le pays promis. Ici Myriam meurt. Les Édomites, descendants d'Ésaü, refusent à Israël le passage sur leur territoire, et Israël est obligé de faire un long détour vers le sud, jusqu'à l'allongement et de la mer Rouge. Pendant ce détour, Aaron meurt, et il est enseveli sur la montagne de Hor. Une nouvelle vague d'incrédulité donne lieu à une peste de serpents venimeux. Sur l'instruction de Dieu, Moïse fait faire un serpent de bronze, qu'il met sur une perche. C'est à la fois un moyen de guérison pour le peuple et un symbole du Christ sur la croix. Israël est victorieux sur Og et Sion, puissants chefs amorites à l'est du Jourdain. Les tribus de Ruben, Gad, et la moitié de Manassé s'établissent dans le territoire de ses rois. Le roi de Moab, alarmé par l'avance et les victoires d'Israël, soudoie Balaam, un voyant renommé, lui demandant de maudire Israël. Les malédictions de Balaam deviennent à chaque fois des bénédictions dans sa bouche. Mais il accomplit indirectement ce qu'il ne peut accomplir directement car il implique Israël dans le péché avec Moab et Madian, suite à quoi plusieurs milliers parmi le peuple de Dieu périssent dans la plaie envoyée en rétribution. Finalement, malgré tous les périls des déserts abandonnés, des ennemis redoutables et leur propre incrédulité, Israël établit son camp sur le côté du Jourdain. Moïse fait son discours d'adieu, inscrit dans le livre de Deutéronome. Du sommet de Pisga, à l'est de la mer Morte, Dieu lui fait voir tout le pays promis. Moïse meurt sur la montagne, et il est enseveli dans un sépulcre inconnu. Son travail est terminé, il a libéré son peuple, il a transformé une race d'esclaves en une nation organisée, et il les a conduits jusque devant les portes de la terre promise. Sa mission et sa vie se terminent ensemble.